Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h en temps universel. Auditeur, auditrice, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La crise du fleuve Niger se poursuit au nord du Mali et les inondations qu'elle provoque n'ont pas que des impacts négatifs. Vous saurez pourquoi dans ce journal. La tension persiste entre Barrick Gold et les autorités de la transition. Ces bras de fer peut-il avoir un impact sur les investisseurs étrangers dans les secteurs? Réponse à suivre. Dans cette édition, nous vous amenons à la découverte de l'univers des buffets dans les restaurants. Avec ce système, les restaurateurs proposent plusieurs variétés de plats sur commande des clients. Je suis Fatia Tara, Adjaratou Traoré assure la technique. Je le disais dans le titre, l'inondation liée au débordement du fleuve Niger continue au nord du pays. C'est la première fois depuis plusieurs décennies que l'eau du fleuve va atteindre certaines localités du cercle de Bintagungu dans la région de Tombouctou, selon des habitants. Une bonne nouvelle pour des paysans qui se préparent déjà pour des cultures saisonnières. Pour mieux réussir cette initiative, des experts en agronomie donnent des conseils aux populations. Un reportage signé Draman Maïga.
Nous avons eu des témoignages de nos aînés de 50 ans, voire plus, qui n'ont jamais vécu cette inondation.
C'est en ces termes que Bassoumaré, secrétaire à la communication de l'Association des jeunes pour le développement du cercle de Bintagungu, apprécie l'inondation d'une grande partie du lac Fagibine. Selon lui, c'est une grande nouvelle et les populations autour de ce lac se mobilisent déjà pour le maraîchage et la culture.
La population du Fagibine était au four et au moulin depuis des décennies pour la mise en œuvre du lac Fagibine. Alhamdoulilah, aujourd'hui, d'une manière naturelle, le Fagibine est arrosé à 60 à 70%. Population très contente, car ça annonce la fin de la misère, de l'immigration, de la pauvreté.
Moussa Wolegem est un technicien agronome spécialisé en maraîchage. Il affirme que pour profiter de cette présence de l'eau, il faut des techniques et des variétés adaptées.
Comme présentement, on est en saison sécheresse. Mais dans peu de temps, on va rentrer en saison chaude. L'oignon, la tomate, la pomme de terre, la laitue, l'aubergine, ainsi de suite. Ici, c'est les céréales, du riz.
Enfin, les localités autour du lac lancent un appel pour être approvisionnées en semences. Car plus de 30 ans, certains villages n'ont plus cultivé à en croire leurs habitants.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le Mali dira adieu officiellement à la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Pour matérialiser cela, des discussions techniques sont prévues pour organiser les modalités de cette séparation, selon l'organisation sous-régionale. Pour des observateurs, cette réunion s'annonce capitale pour le Mali et les autres pays membres de l'AES pour leur avenir. Ils expliquent que plusieurs aspects pourraient être discutés. Écoutons l'avis du docteur Hossein Ben Bamba, enseignant, chercheur et spécialiste des relations internationales sur la question. Il est joint par Khalifa Goïta.
C'est d'abord les modalités administratives et logistiques du retrait. Cela pourrait inclure, n'est-ce pas, la gestion des formalités administratives, le retrait des représentants, surtout du Mali, dans les institutions de la CEDEAO. Et la clôture, n'est-ce pas, des différents accords et projets en cours entre le Mali et l'organisation. Il pourrait être nécessaire de discuter des conséquences économiques du retrait du Mali, notamment concernant les échanges commerciaux, les droits et obligations des parties, la question sécuritaire, la sécurité régionale, de gouvernance et de stabilité régionale. Le retrait pourrait affecter certaines initiatives sociales ou humanitaires gérées par la CEDEAO, notamment en matière de soutien aux réfugiés et d'aide au développement et ou d'éducation. Les États de l'AES pourraient insister sur plusieurs priorités lors des discussions. La CEDEAO pourrait facilement parler du respect des principes, de vouloir faire changer d'avis. Donc l'organisation pourrait insister sur des principes fondateurs, notamment en matière de démocratie.
Le Premier ministre Abdoulaye Maïga en visite au Ghana, il a été reçu ce jeudi dans l'après-midi en audience par le président de la République ghanéen, John Dramani Mahama, porteur des messages du président de la transition à son homologue ghanéen. Les deux personnalités ont évoqué les liens séculaires des coopérations entre les deux pays, la relance de la grande commission mixte des coopérations, entre autres. Les bras de fer se poursuivent entre la société minière canadienne Barrick Gold et les autorités maliennes. Après la saisie de son stock d'or par l'État, la société a suspendu ses activités. Quelles peuvent être les conséquences de ces différends entre la plus grande société d'exploitation d'or et l'État? Le consultant minier et président de l'Association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales au Mali répond qu'aucun des deux parties ne gagnerait ses bras de fer. Djibril Diallo demande à l'État de créer des conditions, surtout dans les domaines sécuritaires, pour attirer d'autres investisseurs afin d'impacter l'économie du pays. Il est au micro de Mohamed Babakunta.
Le Mali est sur la liste rouge depuis 2012, décourageant les investisseurs à venir chez nous à cause de l'insécurité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les investisseurs étrangers? D'abord, il faut améliorer la sécurité. Mais maintenant, le problème de Barrick, ce n'est de l'intérêt ni de l'État ni de Barrick que vraiment cette situation se dégénère jusqu'à ce niveau. Parce que si vous voyez Barrick avec la mine de Loulou-Gounkoto, cette mine est la deuxième plus grande mine d'Afrique. Elle rapporte des centaines de milliards à l'État malien chaque année, sans compter le nombre d'employés qui avoisinent les 8 000, 10 000 personnes, et sans compter les sous-traitants qui travaillent dans cette grande mine. Et s'il s'avère que la mine doit fermer ou suspendre ses activités, tout ce beau monde va se retrouver en chômage, et ce qui va vraiment créer un malaise généralisé dans les domaines.
À présent, on va parler restauration. Les menus à la carte préparés sur commande des clients, ceci est la version classique des restaurants que beaucoup d'entre nous connaissons. Ces derniers temps, un nouveau système de restauration a fait son entrée à Bamako. Il s'agit du buffet. Avec ce système, les restaurateurs proposent plusieurs variétés de plats, incluant les entrées, les plats de résistance et les desserts à une somme forfaitaire par une personne servie sur place à la volonté. Pour les amoureux du buffet, ces derniers comportent plusieurs avantages. Lala Diarra Touré nous fait découvrir ce reportage, l'univers des buffets suivants.
Il est presque 14h lorsque nous arrivons dans ce restaurant de la place. Ici, la première chose qui tape à l'œil est la diversité des plats déjà préparés et prêts à être servis. Des plats soigneusement disposés sur un buffet. Ceci est la nouvelle forme de restauration assez répandue ces temps-ci dans la ville aux Trois Caïmans. Rapidité, convivialité autour du repas et coût assez raisonnable sont entre autres raisons qui motivent les adeptes du système.
C'est un restaurant de luxe et qui offre quand même un cadre idéal.
Moi, la plupart du temps, c'est pour faire plaisir à mes amis.
Nous avons beaucoup de collègues internationaux qui sont ici. Donc, l'occasion de leur départ ou de leur célébration d'anniversaire nous amène souvent à nous retrouver autour des buffets. Ça offre une gamme variée de nourriture, au moindre coût.
Si dans un passé récent, l'idée de repenser la restauration sous cette forme était inimaginable, aujourd'hui, cette nouvelle façon de faire révolutionne le domaine et rencontre un franc succès. C'est à en croire Madame Fatoumata Barry, gérante de buffet.
Parce qu'ils préfèrent avoir plus de choix qu'un menu limité. Et c'est la qualité des repas. Ils ont des produits locaux et de qualité. Parce que c'est tout c'est dans un cadre aussi chaleureux, familial et moderne.
Au buffet, pour une somme forfaitaire, les clients peuvent se servir à volonté. Mais attention, on n'emporte rien avec soi.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a lancé depuis 2022 des initiatives pour relancer les activités touristiques au Mali. Ces initiatives, dont entre autres Bamako City Tour, Kaï City Tour et Ségou City Tour, ont eu un impact positif sur la redynamisation du secteur du tourisme, selon l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali. Selon des responsables du département, des dispositions ont été prises pour élargir ces activités aux régions touristiques, notamment Tombouctou, Mopti, Bandiagara et Djenné, Intalag, Bilal.
Bamako City Tour, Kaï City Tour ou Ségou City Tour sont des initiatives lancées par les autorités en charge du tourisme pour promouvoir le tourisme local. Et le résultat est satisfaisant selon Sidi Keïta, directeur général de l'Agence pour la promotion du tourisme.
Juste après la tenue des éditions Bamako City Tour, Kai City Tour, Ségou City Tour, nous avons constaté une augmentation du nombre des visiteurs au niveau d'un certain nombre de sites touristiques.
Ces initiatives ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, car elles seront élargies à d'autres régions afin de revitaliser les sites touristiques, explique le directeur de l'Agence pour la promotion du tourisme.
Il s'agit de la revitalisation des sites touristiques. Aujourd'hui, nous avons Mopti, Tombouctou, Djéné. L'objectif est que nous allons pouvoir griffer à l'offre culturelle des offres de loisirs. Et tous les anciens bastions du tourisme seront ciblés dans le cadre des campagnes de promotion touristique courant 2021.
L'année 2025 sera à Mopti une année culturelle. Et les autorités veulent mettre à profit les événements culturels prévus dans la région pour promouvoir le tourisme. Boubacar Kassambara, directeur régional adjoint du tourisme.
Il y a quelques festivals qui seront organisés à Mopti. Il y a d'autres activités qui sont prévues qui vont faire revivre le secteur et renaître vraiment l'activité touristique en 5e région. C'est ça à découvrir nos sites touristiques et nos valeurs ancestrales.
Ces initiatives de relance du secteur touristique sont bonnes, mais elles doivent être inclusives en y associant tous les acteurs du secteur, soutient Hamidou Fofana, président de la coordination des professionnels du tourisme de la région de Mopti.
Aujourd'hui, les SAM sont à X, mais s'il y a un tourisme local, on peut s'asseoir et dégager un consensus entre nous. On peut faire une grande diminution de 30, voire 40, même voire 50%, mais malheureusement, on est toujours laissé à nous-mêmes.
Et au pays d'Ogon, une autre destination touristique prisée, cette relance des activités touristiques est moins perceptible, selon Ankunja du Papa Napo, président des guides touristiques de Banyagara.
Pour les relances du tourisme, jusqu'à nos jours, on n'a pas eu l'impact pour pouvoir venir visiter les pays d'Ogon. Il faut quand même organiser des festivals locaux qui sont vraiment nécessaires pour faire les relances du tourisme à partir de Banyangara.
Le président de la transition a décrété 2025 année de la culture. Une annonce qui a suscité de l'espoir chez les acteurs du tourisme pour une redynamisation du secteur en hibernation depuis plus d'une décennie.
Merci pour votre fidélité constante. Nous arrivons au terme de cette édition, mais ne décrochez point. Dans un instant, votre magazine. Ensuite, va suivre la version Bambara de cette édition. Quel week-end pour quel enfant? Et ça, c'est le titre de notre magazine, une réalisation de Mamadou Samasekou en collaboration avec nos correspondants locaux.
Les samedis et dimanches, je m'exerce en maths et physique avec ma sœur.
Je m'exerce en maths, physique, chimie et bio. Les samedis et dimanches, j'aide ma maman dans les tâches ménagères. C'est seulement après les travaux à domicile que je fais mes révisions.
C'est ainsi que ces écoliers de Mopti, Kadjoulou et Bamako occupent leur week-end. Cependant, des pédagogues estiment que le temps libre de chaque enfant doit être géré selon sa nature. Mourike Dambélé, enseignant-chercheur pédagogue à l'université Yambo Wologem de Bamako.
Il y a des façons de faire, mais il y a souvent la nécessité de contrôler ces façons de faire parce que les enfants ils ne sont pas les mêmes. Donc c'est en fonction de la nature de l'enfant, de sa situation scolaire, qu'on choisit les modalités pratiques d'occupation du temps vacant sur le plan scolaire.
Des parents d'élèves à Bamako et à l'intérieur du pays expliquent comment ils occupent leurs enfants pendant les week-ends. Si certains priorisent l'apprentissage scolaire, d'autres ont porté leur choix sur les tâches ménagères ou la distraction.
2 heures ou 3 heures de temps de cours à domicile. Les petits soirs, ils partent à l'école coranique. Ils ont aussi un temps de jeu entre frères.
J'envoie mes enfants à l'école coranique. De retour, si c'est une fillette, elle s'assoit à côté de moi pour qu'elle ait une idée des tâches ménagères. Si c'est un petit garçon, je l'envoie dans les ateliers pour les métiers.
Après avoir nettoyé leurs effets scolaires, les enfants viennent m'aider à la cuisine. Le reste de la journée, ils regardent la télé.
Après les travaux, c'est la télé.
Les spécialistes de l'enseignement félicitent et encouragent les parents qui s'impliquent à leur manière dans l'occupation de leurs enfants à la maison. Ils ajoutent que toutes ces façons ont des avantages et des limites. Mourike Dambélé, enseignant-chercheur pédagogue à l'université Yambo Wologem de Bamako.
Tout ceci est très bon. Ce qui importe en définitive, c'est la modération. C'est le contrôle, c'est la surveillance des parents pour toutes les formes d'occupation pendant ces temps libres. Mais il faudrait éviter que ce temps libre-là soit un temps au aussi de prolongement scolaire où les enfants ne font qu'apprendre, apprendre, apprendre. N'étant pas des professionnels de l'éducation, certains parents abusent du temps libre des enfants. Ils détournent ce temps libre selon plusieurs options.
Si occuper les enfants avec des tâches les week-ends est une bonne chose, il est aussi nécessaire qu'ils aient des moments d'intimité avec leurs parents, conseille le sociologue Fujie Tanjugura. Il estime que cela contribue à l'épanouissement des enfants.
Les week-ends sont les seuls moments où les parents peuvent être avec les enfants toute une journée. Et donc, c'est des moments qu'il faut consacrer à l'intimité avec les enfants, à leur questionner sur leurs amis, leurs entourages et à faire des sorties, faire des activités qui plaisent aux enfants. Cela les fait épanouir davantage parce que le temps que les parents passent avec les enfants reste tracé dans leur mémoire et les enfants grandissent avec. C'est pourquoi les enfants qui ont les deux parents et qui partagent des moments d'intimité avec les parents sont les enfants qui sont les plus épanouis.
Les spécialistes de l'éducation insistent sur le fait de ne pas surcharger un enfant avec des cours à domicile. Cela contribue selon eux à sacrifier son enfance pour une hypothétique réussite scolaire.